Le journal est présenté par Camille Magnard.
Bonjour. Une milice identitaire qui se déploie à la frontière italienne pour empêcher les migrants d'entrer en France. Un coup de force, un coup de pub de Génération Identitaire qui s'est invité hier dans les débats sur la loi Asile et Immigration au Parlement. Les prémices d'une normalisation sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, il n'y a pas eu d'affrontement ce week-end entre gendarmes et zadistes. En Syrie, les experts de l'OIAC ont enfin eu accès au site présumé de l'attaque chimique d'il y a 2 semaines à Douma. La campagne présidentielle s'ouvre au Venezuela, mais l'opposition à Nicolas Maduro et la population vénézuélienne ne semblent pour le moment pas beaucoup s'y intéresser. Enfin, nous essaierons de comprendre ce qui se passe à Madagascar. 3 morts et 15 blessés hier dans la répression de manifestations contre de nouvelles lois électorales. Le débat parlementaire sur le projet de loi Asile et Immigration se serait bien passé d'un tel malaise supplémentaire. Hier, dans l'hémicycle, l'examen du texte qui divise nos députés a été parasité par une action menée dans les Alpes, menée par le groupe d'extrême droite Génération Identitaire. Une centaine de militants anti-immigration sont montés hier matin au col de l'Échelle pour y bloquer la frontière avec l'Italie. Une milice fascisante qui affirme pallier le manque de courage de nos politiques pour protéger vraiment nos frontières. Alors pour l'heure, l'État n'a rien fait pour déloger ce groupuscule et c'est surtout cela qui a soulevé l'indignation chez les députés de gauche, Julien Langlais.
La présidente du groupe socialiste Valérie Rabault, mais également le chef de file des Insoumis Jean-Luc Mélenchon, ont directement interpellé Gérard Collomb.
Je vous demande, monsieur le ministre d'État, ce soir, de réaffirmer l'autorité de l'État.
Gérard Collomb, nous ne sommes pas à l'abri de ces fous et c'est votre devoir de nous protéger et de protéger les migrants qu'ils veulent agresser.
Ne tombez pas dans ces panneaux.
Le ministre de l'Intérieur demande aux parlementaires de ne pas faire de publicité pour Génération Identitaire.
C'est le piège que vous tend aujourd'hui Génération Identitaire, nous condamnons ces gesticulations.
Gérard Collomb et sa loi Asile-Immigration sont en partie responsables de cette situation, accuse Éric Coquerel, l'élu insoumis de Seine-Saint-Denis.
On vote une loi très dure sur l'immigration. Il y a un certain discours gouvernemental qui, quelque part, nourrit cette confiance des groupuscules d'extrême droite.
Je trouve ça assez immonde.
Olivier Véran est député marcheur de l'Isère.
Franchement, je pèse mes mots, assez immonde que d'aller faire croire que des milices d'extrême droite qui vont s'attaquer à des gens en situation de précarité dans une frontière pourraient être portées par un texte de loi en cours d'examen. Ça ne sert personne. Vouloir semer la division, ça m'énerve.
Une nervosité palpable chez tous les parlementaires, à laquelle la longueur des débats n'est bien sûr pas étrangère.
Julien Langlais, sur la longueur de ces débats, le vote prévu ce soir n'est même pas encore sûr. Il reste près de 400 amendements à discuter dans la journée avant d'en arriver au vote définitif, donc sur ce projet de loi Asile et Immigration. L'année 2018 sera bien une année blanche en matière d'impôt sur le revenu. C'est ce que confirme dans une interview au JDD le ministre Gérald Darmanin. Il y précise les contours du prélèvement à la source dès janvier prochain de cet impôt sur l'année 2018. Donc seuls les revenus exceptionnels, primes, indemnités ou retraites en capital seront taxés. Gérald Darmanin se dit convaincu que le prélèvement à la source n'aura pas d'effet négatif sur la consommation, mais qu'il va plutôt débloquer plusieurs milliards d'euros qui étaient jusque-là surépargnés par les ménages français. Un week-end étonnamment calme sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Ça change des centaines de gendarmes et des affrontements avec les zadistes qu'ils venaient déloger ces 2 dernières semaines. Il faut dire que vendredi, la plupart des occupants du bocage ont accepté de déposer en préfecture des projets nominatifs pour régulariser leur situation. L'heure semble donc à la normalisation. Prudente toutefois, Anne Patinec.
Si aux abords de la ZAD, des gendarmes contrôlent encore les identités des automobilistes, les forces de l'ordre sont beaucoup moins présentes sur le terrain. Quelques fourgons de gendarmes mobiles passent de temps à autre. Ça et là, on voit des restes de barricades. Le calme est revenu dans le bocage. On entend les oiseaux. Julien Durand, coprésident de la CIPA, l'association historique des anti-aéroports, est soulagé qu'enfin des occupants de la ZAD aient accepté de déposer des dossiers en préfecture.
Il était grand temps. On était quand même au bord du gouffre. La raison l'a emporté au niveau des habitants de la zone. Que de temps perdu. On aurait pu éviter beaucoup de blessés dans leur rang si des dossiers avaient été commencés à être déposés vers la mi-février.
Brasseur aux Fosses Noires, Lucas est l'un des occupants de la ZAD qui a déposé un projet. Il espère un geste de l'État, mais reste méfiant.
Tout ce qui s'est créé ici, cette richesse, sagesse, on ne peut pas la mettre de côté, c'est impossible. On espère qu'ils pourront se calmer en face et enfin dialoguer. On a de l'espoir pour que on puisse trouver une sortie positive.
Ce week-end encore, les occupants de la ZAD reçoivent des soutiens comme Théo, musicien à Nantes.
Rien que d'être présent, je pense que c'est une façon de soutenir. Puis là, par exemple, aujourd'hui, on a nettoyé un peu les lacrymos des champs, on a fait la cuisine, voilà.
Et des panneaux, route barrée, sauf pour les riverains, restent en place sur les deux départementales qui traversent la ZAD.
Un reportage signé Anne Patinec pour France Bleu, Loire-Océan. Dans l'actualité internationale, c'est bien un centre d'enregistrement sur les listes électorales qui a été visé par une explosion ce matin en plein centre de Kaboul. Explosion dont tout semble montrer qu'elle serait d'origine criminelle, selon la police afghane qui confirme la mort d'au moins 4 personnes, 15 autres sont blessées. On le rappelle, des élections législatives qui avaient été reportées depuis 3 ans à cause du climat de violence terroriste doivent se tenir au mois d'octobre en Afghanistan. En Syrie, cette fois, il aura fallu 2 semaines aux experts de l'OIAC avant de pouvoir se mettre au travail. La délégation de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques a donc eu accès ce samedi au site de l'attaque présumée, attaque à l'arme chimique du 7 avril, c'était à Douma, avec plusieurs dizaines de morts parmi les civils syriens à Beyrouth. Les précisions de Nicolas Feldman.
Dans un communiqué, l'OIAC indique que ses experts ont pu se rendre hier sur l'un des sites de la ville de Douma. Les échantillons prélevés doivent maintenant être envoyés au siège de l'organisation aux Pays-Bas avant d'être répartis sur plusieurs laboratoires dans le monde certifiés par l'instance. À l'issue de ces analyses, les experts de l'OIAC devront déterminer si une attaque chimique a bien eu lieu ce 7 avril dans la Ruta orientale et quels agents chimiques auraient été utilisés. En cas d'attaque avérée, l'organisation n'aura en revanche pas pour mission d'en désigner les auteurs. Arrivés à Damas, 7 jours après les faits, les experts de l'OIAC auront dû attendre une semaine avant d'accéder à la zone. Damas et Moscou attribuent ce retard à des incidents sécuritaires déclenchés par des rebelles. Les Occidentaux accusent, eux, les autorités syriennes et russes d'avoir retardé l'accès au site pour éliminer d'éventuelles preuves. L'OIAC, de son côté, dit vouloir à présent évaluer la situation et décider des démarches futures. L'agence n'exclut pas une nouvelle visite à Douma.
Nicolas Feldman, le Venezuela entre officiellement en campagne ce dimanche, campagne qui doit durer jusqu'à l'élection présidentielle du 20 mai, qui a été voulue par et pour le président Nicolas Maduro. Et l'opposition vénézuélienne, comme la population, ne semble pas très enthousiaste pour cette élection. C'est ce que l'on voit avec le correspondant de RFI à Caracas, Julien Gonzalez.
Il est apparu tout sourire ce vendredi, juste avant de décoller pour La Havane. Le chef de l'État et candidat, Nicolas Maduro, l'a assuré. Le peuple votera en masse lors de la présidentielle et il espère bien qu'il votera pour lui le 20 mai afin d'assurer une nouvelle victoire de la révolution. Un président confiant donc, alors que la communauté internationale ne faiblit pas dans ses critiques contre le scrutin. Lors du sommet des Amériques la semaine dernière, 16 pays ont averti que sans garanties électorales, la présidentielle du 20 mai serait illégitime. Si Henry Falcón, un dissident du chavisme, fait figure de principal adversaire au président, la coalition d'opposition, elle, reste bien décidée à ne pas participer à cette élection qu'elle juge être une fraude. Accumulant les soutiens internationaux lors de déplacements à l'étranger, l'opposition est cependant inaudible dans le pays. Ce samedi, elle avait par exemple organisé des assemblées citoyennes pour protester contre le scrutin, des rassemblements qui ont été très peu suivis, notamment à Caracas. Un exemple qui traduit l'indifférence qui règne pour le moment parmi les Vénézuéliens. Selon un récent sondage de l'Institut Data Analysis, seuls 41% des Vénézuéliens se montrent très disposés à aller voter le 20 mai. Près de 2 fois plus s'étaient déplacés lors de la présidentielle de 2013.
Eux contestent les nouvelles lois électorales voulues par leur gouvernement à Madagascar. Des milliers de personnes manifestent depuis plusieurs jours et sont violemment réprimées par la police. Hier, 3 manifestants sont morts, parmi lesquels 2 enfants qui auraient été asphyxiés par des gaz lacrymogènes. Les manifestations doivent reprendre ce lundi, Laure Verneau.
Aujourd'hui à 10h, les députés de l'opposition organisent une veillée mortuaire pour commémorer la mémoire des victimes des affrontements survenus lors de la manifestation. Elle se tiendra dans le quartier d'Analakel, sur le parvis de l'hôtel de ville, là où les débordements ont commencé. Hier, en début de soirée, le Premier ministre Olivier Mahafal a déclaré sur la TVM, la première chaîne publique du pays, souhaiter l'ouverture d'une enquête afin d'éclaircir les circonstances dans lesquelles ces civils ont trouvé la mort. Le président du Sénat, numéro 2 de l'État après le président de la République, a lui aussi lancé un appel au calme et a exprimé sa compassion envers les victimes. Le président R. Razunamampian, qui se trouvait à Paris pendant la manifestation d'hier, a depuis atterri sur la Grande Île et devrait s'exprimer dans la journée. La tournure des événements n'est pas sans rappeler ceux de 2009, lorsque Hans Radziwill a forcé par un coup d'État à la démission du président Mark Ravalman. La contestation avait en effet commencé par une série d'émeutes et de manifestations très violentes. Aujourd'hui rassemblés sous l'opposition, les deux hommes s'opposent fermement à l'actuel chef de l'État élu en 2013. Mais tous deux convoitent aussi la présidence lors du prochain scrutin qui se tiendra à la fin de l'année. Un scrutin qui s'annonce d'ores et déjà très agité.
Laure Verneau à Madagascar pour France Culture. Un dimanche encore bien ensoleillé, ça c'est pour le temps aujourd'hui, mais le ciel va se voiler progressivement par l'ouest. Des orages sont prévus en fin de journée du Poitou au Hauts-de-France. Côté température, les maximales iront de 23 à 28 degrés cet après-midi.